Les titres de ce journal.
Presque 120 ans plus tard, le projet de deux centrales hydroélectriques à Valli et Champéry est à bout touchant. La concession est accordée à la société nouvellement créée Viège Énergie. Et ça, on en parle dans ce journal. Pro Natura a été débouté par le tribunal cantonal vaudois. Le plan d'affectation du secteur Pierre-Pointe sur le glacier des Diablerets est donc sous le toit et ouvre la voie au projet de glacier 3000. C'est le grand retour à Saint-Trifon de la troupe du Karlsruhe Kühne-Gassenschau. Après Silo 8, Aqua ou encore Fabrique, voici Secteur 1. Léa Journeau est allée jeter un coup d'œil dans les coulisses du spectacle en préparation. Le Conseil fédéral devrait décider aujourd'hui quel nouvel avion de combat équipera dans le futur les forces aériennes suisses. 4 appareils sont en lice au-delà de l'aspect technique. Le choix devrait surtout être politique, nous dira tout à l'heure Serge Jubin, notre correspondant à Berne. Et puis du sport aussi dans cette édition. En tennis, Roger Federer a réussi son entrée en lice à Wimbledon. Et en football, plusieurs rencontres amicales vont avoir lieu dans la région à l'occasion du Festival des Alpes.
Pour la météo, il va pleuvoir cet après-midi et que le retour des averses et peut-être des orages. Rien d'autre à dire si ce n'est qu'on fera une météo un peu plus complète en fin de journal. Édition de midi présentée par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Un projet de turbinage hydroélectrique de la Haute-Viesse unit Champéry et Valdillé, ceci depuis plusieurs années. Mais la concession est enfin accordée avec la création de Viesse Énergie SA. Champéry souhaite désormais aller de l'avant en obtenant rapidement le permis de construire pour le premier palier situé sur son territoire à la hauteur de la steppe, notamment afin d'être encore en mesure de bénéficier des RPC, comprenant les rétributions à prix coûtant, soit les mesures d'encouragement de la Confédération pour ce type de projet, ce qui n'est possible que jusqu'en mars 2022. Concernant la deuxième centrale située à Valdillé, Jacques Béra, président de Champéry et de Viesse Énergie SA, le souligne, la commune n'est pas mise de côté.
Valdillé est partenaire et est actionnaire de la société, donc reste partenaire. La deuxième partie, le problème c'est que le tuyau passe plus sur Champéry que sur la commune de Champéry que sur Valdillé, et les oppositions sur le tracé du tuyau sont plus à Champéry, mais les débits d'eau viennent principalement de la commune de Valdillé, puisque la prise d'eau est au sommet de la route de Malatrie vers la cantine de Surcoux entre Champéry et Valdillé. Au fond de la vallée, là, il y a une prise d'eau et puis un turbinage qui se ferait aussi de nouveau sur la commune de Champéry, mais à la hauteur de la limite entre Champéry et Valdillé. En d'être. Donc là, on a des problèmes, on passe à travers des pâturages, on a une usine de turbinage de l'eau. Les gens ont peur un peu du bruit parce qu'elle est dans un endroit où il y a un peu plus d'habitations autour, quoi. Des habitations quelques fermes, mais il y a quand même un bruit résiduel de ces usines, même si on les enterre et tout. Donc il y a encore des oppositions par rapport surtout au tracé de la conduite et puis à l'usine, l'implantation de l'usine.
Jacques Béra répondait à Valérie Blom. Le président Champérolin espère désormais qu'en observant la réalisation de la première partie, les opposants puissent constater de la véritable plus-value du projet sur Valdillé également, notamment car cette énergie devrait pouvoir alimenter les deux communes.
Le tribunal cantonal vaudois a mis fin à une longue attente.
Après 2 ans de procédure, il a décidé de rejeter le recours de Pro Natura. L'ONG s'opposait au plan d'affectation du glacier des Diablerets, secteur Pierre-Pointe. Elle estimait que la biodiversité n'était pas assez protégée. Un avis que ne partage pas le syndic d'Ormont-Dessus, Christian Reber, qui défend le plan d'affectation communal.
Le tribunal cantonal a retenu en tout point les arguments que nous avions développés, et c'est un jugement très très technique. Là, je dois saluer la Cour qui a statué sur ce jugement. Il y a une analyse à faire sur les sols, sur la forêt, sur la flore, sur la faune, sur le biotope, vraiment sur l'impact qui a été décrit par Pro Natura, qui était exagéré. Ils ont tenu compte aussi des efforts très importants qui ont été faits par la société promotionnel de ce beau projet que nous attendons, à savoir le tunnel qui va traverser la montagne pour créer une nouvelle piste. Et dans les transactions que nous avons essayé de faire avec Pro Natura pour débloquer le dossier, la commune a fait beaucoup d'offres pour la nature. Notamment, elle a offert de nouvelles zones de protection de la faune, elle a offert un tas de compensations, et le tribunal a su relever dans son arrêt que ces propositions, elle tiendrait quand bien même serait le résultat de la transaction de la négociation. Nous n'avons pas pu négocier avec Pro Natura, mais nous avons dit nous laissons ces compensations parce qu'elles sont de droit pour la nature. À l'évidence, le garde-faune avait fait des recommandations, nous avons voulu les suivre, et aujourd'hui nous sommes très heureux que le tribunal a tenu compte de ces efforts.
Des efforts qui ne satisferont pas pour autant Pro Natura Vaud, qui a cependant décidé de ne pas aller plus loin. Explication avec son secrétaire général Michel Bongard.
On en prend acte. Nous avions la possibilité de faire un recours au tribunal fédéral et ça, nous avons renoncé puisque Dans cette région, nous sommes aussi des partenaires de la commune, puisque nous avons des réserves naturelles. Il y a des agriculteurs, enfin des paysans, qui viennent estiver leur bétail dans ces alpages. Donc nous estimons aussi que nous devons faire avec, en fin de compte. Et on regrette bien sûr que la biodiversité disparaisse. C'est comme ça qu'elle disparaît. Progressivement, ici et là, des atteintes. Celles-ci seront importantes, mais c'est comme ça.
Et maintenant, parce que ce plan d'affectation est du coup validé, on imagine bien que Glacier 3000 va aller de l'avant, permis de construire, etc. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous de vous opposer? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez?
La prochaine étape, ce sera les permis de construire pour creuser le tunnel de Martinsberg. Bien sûr que nous serons attentifs au projet en tant que tel, concrètement, qui respecte en fait les contraintes et les possibilités que donne ce plan partiel d'affectation.
La balle est désormais dans le camp de Glacier 3000. L'idée est donc de construire un tunnel traversant la vallée du Martinsberg et de remettre au goût du jour une piste noire de ski. Elle partirait depuis la cabane des Diablerets environ pour terminer au col du Pillon. C'était un dossier réalisé par Marco Reguin.
Et après Silo 8, à quoi est Fabrique allée de retour?
Oui, elle, la troupe Karl Skune Gassenschau, qui revient en effet avec un nouveau spectacle Sector 1 prévu pour 2020. Il a dû être reporté à cause de la pandémie. Dès demain, les spectateurs pourront se rendre à la carrière des Andonces à Saint-Trifon à condition de montrer patte blanche et ce jusqu'au 25 septembre prochain. Léa Journeau a pu promener son micro en coulisses avant l'ouverture afin de vous faire découvrir quelques machinations fantastiques.
Bienvenue dans un monde sans bouteilles vides qui traînent, sans saleté, sans déchets, bref, un monde propre. Les bons élèves sont récompensés en allant à Sector 1, l'oasis du futur. Les mauvais élèves sont eux punis. Mais combien de temps durera ce monde presque parfait? Vous aurez la réponse si vous allez voir Sector 1. Des explosions, des personnes qui volent, des monstres qui surgissent de la scène. À chaque fois, les représentations de la troupe suisse-allemande surprennent et font vivre aux spectateurs une vraie expérience. Mais pour faire fonctionner tout cela, il faut une sacrée machinerie. Début de la visite en rentrant dans la scène, sous la fusée, Paul Weilenmann, directeur et cofondateur de la troupe, nous accompagne.
Timer dans le bon moment. Donc l'espace est très grand, il faut plusieurs endroits pour se changer. Alors là, c'est la garde-robe d'un acteur qui n'a pas le temps de se changer. On a dû faire une garde-robe en plus. Il y en a à peu près 5 places où il doit se changer.
La visite continue, on arrive derrière la scène entre la montagne et la structure.
Comme notre équipe a une histoire, hein. on a commencé petit, toujours un peu plus grand, on a essayé de différentes techniques, avec Aqua on a introduit l'air pressé parce qu'il fallait beaucoup d'air, alors toutes ces techniques qu'on a une fois développées, on les réutilise dans les prochains spectacles.
Tout à coup, le soleil disparaît, on rentre à nouveau sous la scène pour découvrir comment le spectacle est coordonné correctement.
On vient contrôler ce qui se passe sur scène. Il y a le moniteur ici pour bien savoir quand c'est le moment à ouvrir les tuyaux, les manœuvres. C'est très important qu'on ait ce système. Il n'y a pas de délai, c'est très exact. Et on peut contrôler. C'est des signaux très simples, rouge, orange, vert. Allez, ça veut dire attention, prêt, allez, ouf, prêt. Parce que dans le spectacle, avec la musique et les bruits de la ventilation, on n'entend plus rien.
L'occasion de découvrir aussi l'utilisation de certaines infrastructures.
Là, on a des machines à projeter des personnes.
Mais la troupe sait aussi faire preuve de créativité et d'inventivité. La preuve avec un chariot réalisé avec des pièces très spéciales.
C'était des transports de bombes. Ce qu'on a reçu d'un airport à Dübendorf. Là, c'était l'airport des militaires. Et ils ont changé tout leur matériel. On a pu acheter très très bon marché. Et on ne savait pas, il y a 10 ans qu'ils sont restés dans l'atelier. Et puis finalement, on a pu utiliser pour ça.
Cette installation donne Sector 1, un spectacle inventif, explosif, mais surtout une expérience pour les spectateurs.
Et voilà qui donne envie. Un reportage de Léa Journeau. Et on le rappelle, Sector 1 démarre demain à Saint-Trifon. Le spectacle est donné jusqu'au 25 septembre prochain. Accorder 34 semaines aux nouveaux parents, c'est le projet du Parti Socialiste Vaudois. Il a validé hier soir lors d'un congrès le lancement d'une initiative cantonale en ce sens. Pour mémoire, en septembre dernier, le peuple suisse a voté en faveur d'un congé paternité de 10 jours. Mais pour le Parti Socialiste Vaudois, c'est encore loin de ce que l'on peut attendre pour les familles, a-t-il annoncé dans un communiqué. La récolte de signatures pourrait bien débuter à l'automne prochain. Une autre décision a été prise lors de ce congrès, celle d'une résolution en faveur d'une gratuité ciblée des transports publics vaudois. Le PSV souhaite en effet que le prix des transports soit adapté aux différentes situations sociales. La police cantonale valaisanne a procédé vendredi dernier à plusieurs contrôles ciblés dans le Valais central. L'opération s'est concentrée sur les comportements routiers dangereux, perturbant la tranquillité publique, ainsi que sur le phénomène de tunning. 17 contrevenants ont été dénoncés pour des défauts techniques, des véhicules non conformes à la réglementation ou encore l'absence de couverture d'assurance. La police cantonale valaisanne continuera à effectuer des contrôles qui se veulent préventifs mais aussi répressifs à l'égard des usagers qui mettent en danger la sécurité et la tranquillité de toutes et tous. Le moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés, les OGM, dans l'agriculture devrait être prolongé jusqu'à fin 2025. Le Conseil fédéral a transmis aujourd'hui au Parlement son message visant à modifier la loi sur le génie génétique en ce sens. Actuellement, la culture d'OGM n'est autorisée en Suisse qu'à des fins de recherche. Les essais recourant à des OGM en milieu confiné et la dissémination expérimentale d'OGM sont admis sous certaines conditions. Le moratoire sur l'utilisation de ces organismes dans l'agriculture est en vigueur depuis l'acceptation d'une initiative populaire en 2005. D'une durée de 4 ans, il arrivera à échéance à la fin de l'année. Il a déjà été prolongé 3 fois.
Et avant sa sortie d'école de 2 jours en Pays Vaudois, le Conseil fédéral devrait choisir aujourd'hui le nouvel avion de combat de l'armée.
Le conditionnel demeure de mise parce qu'il faut que le gouvernement s'entende. Il pourrait aussi reporter la décision après les vacances. 4 avions sont en lice, on le rappelle, 2 américains et 2 européens. Ils ont été testés, les qualités techniques jouent un rôle important. Mais le choix devrait d'abord être politique. L'analyse à Berne de notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.
L'achat de nouveaux avions de combat est une histoire à rebondissement en Suisse. Les Helvètes ont d'abord refusé le Gripen suédois et ils ont accepté à une très courte majorité de 8500 voix de dépenser 6 milliards de francs pour l'achat d'une flotte d'une trentaine d'avions. C'était le 27 septembre. La ministre Viola Amert avait senti le vent du boulet.
Je suis heureuse que la population votante ait approuvé aujourd'hui l'acquisition de nouveaux avions de combat. Merci à chacune et chacun pour son soutien et les discussions engagées tout au long des dernières semaines.
Il s'agit maintenant de choisir le modèle et ce choix appartient au Conseil fédéral. Dans le rôle du favori, l'américain F-35 du constructeur Lockheed Martin, il aurait obtenu les meilleures notes des tests. Il est très sophistiqué et adapté aux besoins suisses, mais il est aussi très critiqué aux États-Unis. Selon certains médias alémaniques, il aurait les faveurs de Viola Amert. Mais le choix du jet de combat n'est pas seulement technique. Les paramètres politiques pourraient faire la différence à l'avantage, là, des candidats européens, le Rafale français et l'Eurofighter de 4 pays européens, dont l'Allemagne. Un choix continental mettrait aussi un peu de baume sur la cicatrice de l'accord institutionnel abandonné par le Conseil fédéral. En outre, France et Suisse collaborent depuis un certain temps en matière militaire. Les autres voisins européens, porteurs de l'Eurofighter, ont proposé un vaste concept de coopération sécuritaire auquel la Suisse pourrait s'associer. À l'avantage encore des constructeurs européens, la menace d'une initiative du groupe pour une Suisse sans armée contre toute acquisition américaine soupçonnée de pirater des données. Pour autant qu'il intervienne aujourd'hui, le choix du Conseil fédéral devrait être communiqué dans l'après-midi.
Affichant toujours des perspectives très favorables pour autant que la situation sanitaire reste stable, l'économie suisse se trouve désormais sur la voie de la normalisation, estime le COF, l'Institut de recherche conjoncturelle de l'École polytechnique fédérale de Zurich, à la lumière de son baromètre conjoncturel. En juin, l'indicateur a marqué une pause après les hausses des derniers mois, fléchissant de 10,3 points en un mois à 133,4 points. Le baromètre conjoncturel se dirige désormais vers sa moyenne à long terme, écrivent aujourd'hui les chercheurs du COF, qui explique que le repli est dicté par l'affaiblissement des indicateurs pour le secteur manufacturier et les autres services, ceux des branches de la restauration et de l'hébergement, de la demande étrangère ainsi que du secteur financier et des assurances ont également contribué à l'évolution défavorable. Le marché du travail helvétique est marqué par une progression des offres d'emploi en juin, ce qui confirme la tendance haussière observée depuis le mois de février, indique le cabinet Michael Page. Le nombre d'offres d'emploi a bondi de 5,1%. 3% sur un mois en juin, d'après les derniers chiffres du Swiss Job Index concocté par le spécialiste du recrutement Michael Page et dévoilé aujourd'hui. 9 offres sur 10 se concentrent en Suisse alémanique. Pour le reste, loin devant les autres secteurs de la gastronomie, la gastronomie a enregistré un bond de 33,2% sur un mois et 149,7% entre janvier et juin, principalement dû à la réouverture des restaurants et des bars au printemps. Le canton du Jura doit accueillir la ville de Moutier en 2024 déjà et ne pas attendre la date du 1er janvier 2026 avancée par le gouvernement jurassien. Le Parlement a accepté aujourd'hui une motion urgente en ce sens par 46 voix contre 12 et une abstention. Le nombre de nouvelles infections au coronavirus a augmenté la semaine dernière dans le monde de 2% pour la première fois en 9 semaines. Cette extension est importante en Europe. En revanche, le nombre de nouveaux décès a atteint le plus bas depuis novembre. Et toujours dans le registre de la pandémie, la Russie a enregistré aujourd'hui un record de décès quotidien pour la 2e journée consécutive. Le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta sur fond de campagne de vaccination laborieuse. Selon le décompte du gouvernement russe, 669 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, dépassant le record de 652 décès établi la veille. Cette 3e vague épidémique frappant la Russie devrait être une thématique dominante aujourd'hui de l'émission télévisée annuelle du président Vladimir Poutine, répondant aux questions de ses concitoyens. Vladimir Poutine, qui s'est d'ores et déjà dit opposé à toute vaccination obligatoire à l'échelle nationale, mais qui exhorte ses concitoyens à passer par cette vaccination. Vacciné, guéri ou testé positif au Covid-19, il faudra donc à partir de demain montrer patte blanche pour franchir les frontières européennes. Le nouveau pass sanitaire sera désormais indispensable pour voyager dans 33 pays du vieux continent. Disponible au format papier et numérique, ce précieux sésame prend la forme d'un QR code qui pourrait être vérifié par les compagnies de transport, avions, trains, bateaux et par la police. Ce certificat comprend des données d'identification et surtout les informations relatives à la vaccination, type de vaccin, nombre de doses reçues, date d'injection ou au dépistage, date et type de test, résultat négatif ou positif. Si l'outil sera le même dans les 27 États membres de l'Union européenne et 6 autres pays voisins, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, Norvège et la Suisse, les règles d'entrée et de sortie varient selon les destinations. Donc, si l'on entend voyager, il faudra vérifier impérativement avant de partir en voyage. Sachez aussi que des dizaines de personnes sont mortes subitement ces derniers jours dans la région de Vancouver, dans l'ouest du Canada. Cette surmortalité est attribuée par les autorités aux températures caniculaires records ayant atteint les 49,5 degrés. La gendarmerie royale du Canada et la police de Vancouver ont annoncé qu'au moins 134 personnes sont décédées brutalement depuis vendredi dans la région de la métropole canadienne de la côte du Pacifique, aux prises avec une canicule historique à l'instar du nord-ouest des États-Unis. Et on poursuit ce journal avec une page de sport en tennis. Roger Federer a remporté son premier match à Wimbledon, opposé hier après-midi au Français Adrien Manarino. Le ballon n'a pas eu besoin d'aller au bout de la partie pour passer au tour suivant. Son adversaire du jour a en effet abandonné en raison d'une blessure contractée après une glissade en pleine partie. Jusqu'à cet incident, il y avait 2-7 partout et on se dirigeait alors vers une 5e manche. Roger Federer profite donc de ce pépin physique du joueur tricolore pour poursuivre son périple londonien. Un périple qui commence donc bien pour le Ballois, même si un peu de nervosité s'est fait ressentir en début de match. On écoute Roger Federer.
Une fois, avec mon expérience, je sais aussi que les nerfs avant match, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose pendant le match. Et c'est vrai que je suis content que le premier tour est fini maintenant, que maintenant je peux me reposer un peu mentalement aussi, laisser un peu passer les images et les émotions et parler de ça un peu avec l'équipe et après forcément de me préparer de la meilleure façon possible pour Richard. Voilà, j'étais content que je me suis senti de cette façon-là. Mais je pense que dans le deuxième tour, je serai un peu plus relax juste parce que le premier test a passé. Même s'il a passé complètement bizarre, pour finir, j'étais triste pour Adrien, en plus, anniversaire, plus, voilà, c'était tout ensemble, alors c'était terrible. Mais je me réjouis de jouer contre Richard, on verra bien qu'est-ce que ça donne.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Wimbledon, Hélène Scott-Smith. Demain, pour le deuxième tour, Roger Federer sera opposé à un autre joueur français, Richard Gasquet. Ce dernier s'est défait hier du japonais Yuichi Tsujita.
Et en football, le Festival des Alpes reprend ses droits dès demain.
Après une année blanche l'an dernier à cause du Covid-19, les rencontres amicales entre plusieurs formations européennes vont bel et bien se tenir. Plusieurs clubs suisses comme Sion, Lausanne, Genève ou encore Bâle et Lucerne seront de la partie. Côté européen, le FC Dynamo Kiev, l'OGC Nice et l'Atlético Bilbao ont fait le déplacement. Au vu de la situation actuelle, organiser un tel événement avec plusieurs équipes internationales n'a pas été de tout repos. Même constat pour les mesures sanitaires qu'il faudra déployer pour le public qui sera autorisé à prendre part aux rencontres. Écoutez les précisions de Marc Biollet, directeur de Matchworld, la société organisatrice du Festival des Alpes.
On a, disons, obtenu les autorisations nécessaires, même par exemple pour le Dynamo Kiev qui était dans une zone rouge. Mais vu que c'est une équipe vraiment qui est habituée à voyager en Champions League et tout, donc les autorités ont très bien compris et ont facilité l'avenir de l'équipe en Suisse.
Et puis un mot pour conclure, Marc Biollet, sur ce Festival des Alpes. On a parlé rapidement du public. On l'a dit, le public qui sera autorisé à prendre part à ces rencontres amicales, on le rappelle. Mais sous contrainte, il y aura forcément des limitations, des mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'il en est? À quelle sauce, surtout, le public sera mangé en juillet?
Alors ça va dépendre du nombre de spectateurs, comme par exemple le match à Lausanne, le premier match avec des spectateurs au stade La Tulière qui aura lieu samedi. Donc là, c'est organisé par le FC Lausanne Sport en collaboration avec nous. Ils vont mettre le concept, disons, avec plus de 1000 spectateurs, donc ça veut dire passeport Covid et les contrôles à l'entrée. Par contre, pour d'autres matchs, on va limiter à 1000 personnes pour éviter, disons, ces contraintes et permettre aux gens de venir sans passeport Covid, quoi.
Marc Biollet répondait à Ludovic Turin. La première rencontre prévue lors de ce Festival des Alpes mettra aux prises Bâle et le FC Dynamo Kiev demain, dès 19h au stade de Copé à Vevey. Toutes les informations sur la billetterie sont à retrouver sur le site internet www.alpscup.com. Et puisqu'on parle de football, vous dire qu'il y aura une fan zone sur la place centrale de Martigny. Le conseil municipal a accepté une proposition du club de football local, le Martigny Sport. Les raisons, le caractère historique du passage de l'équipe de Suisse en quart de finale de l'Euro 2021, mais aussi l'assouplissement des normes Covid. Un écran géant ainsi qu'un bar sera disponible dès vendredi pour le match Suisse-Espagne, indique un communiqué de la commune. Le conseil municipal a également approuvé l'augmentation du volume des écrans installés sur les terrasses des établissements public de la ville, ceci dès vendredi et jusqu'à la fin de la compétition. En hockey sur glace, l'attaquant américain Brian Gibbons quitte Lausanne pour la Suède. Il a signé pour un an avec Linköping. La saison dernière, le joueur de 33 ans a comptabilisé 35 points en 52 matchs avec le LHC. En Suède, il retrouvera le Canadien Ben Maxwell qui a joué les deux dernières saisons à Långlo.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Romande Énergie et ses solutions innovantes pour panneaux solaires, boilers et pompes à chaleur. Romande-énergie.ch.
Alors on nous l'annonce depuis ce matin, hein, cet après-midi devrait être un peu plus tourmenté qu'à l'accoutumée avec normalement l'arrivée de nuages à partir de l'ouest, nous dit Météo Suisse, avec des perturbations bien sûr qui prendront la forme de pluie et d'orages à certains endroits, hein, c'est très local ces prévisions d'orages, soyez donc quand même prudents. Il va faire aujourd'hui au maximum 19 degrés en pleine, 15 à 1000 mètres, 8 à 2000 mètres. Demain le ciel sera chargé le matin au réveil avec probablement de faibles averses encore possibles. Et une amélioration est prévue au fil des heures pour laisser la place ensuite à un temps assez ensoleillé et surtout sec. Demain, il fera 23 degrés au maximum en pleine d'après les prévisions de Météo Suisse, 19 à 1000 mètres et 11 à 2000 mètres. La météo à 6 jours sur notre site internet radiochablais.ch.